Emmanuel Soupre, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes responsable de la gestion Action France chez Neuflize Private Asset. On va parler avec vous, bien sûr, de marché, de perspectives sur ces marchés. Après, on va dire un petit peu 2 mois euphoriques, hein, on pourrait le dire. En tout cas,
Oui.
un mois de janvier très clairement. Et puis, retour d'appétit pour les actions des investisseurs. On se pose à nouveau peut-être certaines questions, hein, au mois fin mars. On est pratiquement fin mars. Quand on regarde un petit peu quand même ce qui s'est passé, est-ce que le principal critère que vous mettez en avant, vous, ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire qui a aidé les investisseurs à revenir sur ces marchés, à redonner la confiance?
Absolument, c'est exactement ça. En fait, on va l'étendre à un autre Mario. Donc, ce sont les deux Mario qui ont agi positivement sur le niveau de risque. D'abord, la Banque centrale a fait son travail. Elle a fait un peu ce qu'avait fait la Banque centrale américaine. Et donc, elle a octroyé des liquidités dès que les gens le demandaient. Donc, le tarissement des sources de financement n'était plus une question qui se posait. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on a eu besoin de vérifier que, en ce qui concernait l'Italie, on pouvait s'engager dans un programme de réforme qui était puissant et qui était extrêmement salutaire. Et on voit que les réformes ont tendance à être suivies ailleurs, puisque c'est le cas en Espagne, c'est le cas aussi en Grande-Bretagne. On ne l'a pas encore tout à fait en France, mais on verra bien. Et les deux éléments ont joué de façon à ce que les taux d'intérêt se détendent en Europe, et cette détente des taux d'intérêt a permis une reconstitution de la prime de risque, si chère aux investisseurs, et à ce moment-là, ça a redonné un peu d'allant aux actions. Alors, ce n'est pas pour autant que ce souffle qui a été redonné depuis 3 mois est un souffle définitif et qui est la traduction d'une amélioration sensible, structurelle de l'économie. Ce n'est pas du tout le cas, c'est simplement un effet de détente des taux.
Alors, on a eu effectivement, côté États-Unis notamment, de meilleurs chiffres. Donc, c'est vrai que ça a rassuré aussi, hein, de ce point de vue-là, les investisseurs qui ont vu qu'en tout cas, il y avait une amélioration, on va dire, toujours à confirmer, bien entendu. Mais on a vu dans le domaine de création d'emplois, effectivement, qu'il y avait. Donc, ça a aidé aussi, je dirais, le positionnement des investisseurs qui étaient revenus sur ces marchés actions.
Oui, alors on a eu effectivement des chiffres qui étaient un petit peu meilleurs aux États-Unis, donc ceci a conforté le sentiment d'optimisme. Ce qui aussi a rassuré un petit peu les marchés, c'est l'impression selon laquelle on pouvait éventuellement avoir des pays émergents qui tiennent plutôt mieux qu'on ne pouvait le penser. Il faut rappeler que l'Europe est le premier client de la Chine, par exemple, et donc par conséquent, tout ce qui pouvait se passer en Europe avec une détérioration qui faisait qu'on passait d'un profil de croissance d'environ 1,9 à 2% il y a 12 mois pour cette année, à zéro, était légitimement en droit d'inquiéter tout le monde. Et donc on s'aperçoit que ça tient plutôt un petit peu mieux que prévu, les autorités chinoises ont conscience de cela. Donc tout ceci a alimenté le sentiment optimiste des choses, mais je le rappelle, nous ne pouvons pas considérer, à la lumière des événements, de ce qui a été fait et à la lumière des chiffres présentés, que nous sommes sortis de l'ornière.
Alors, il semble, hein, qu'à nouveau, on se pose des questions sur la croissance, bien entendu, dans la zone euro en tout cas, et que là, il y a peut-être à nouveau des risques, hein, compte tenu justement des mesures qui ont pu être prises ici ou là, de retomber à nouveau. Alors, est-ce que c'est une récession effectivement ponctuelle, on va dire, et puis on en sort vite, mais on a cette impression-là, c'est-à-dire qu'il y a à nouveau des craintes de se dire finalement, est-ce qu'on ne va pas retomber dans la zone euro en tout cas, de là où on venait, quoi, à peine
Alors,
sorti de ce
pour
problème.
vous répondre, je vais prendre une métaphore. Le pronostic vital du malade européen était engagé. Maintenant, il n'est plus engagé, mais la guérison n'est pas encore commencée. Donc, on est dans un état temporaire où la fragilité reste toujours très conséquente. Et ceci donc fait que le malade européen nécessite encore énormément d'attention.
Alors, on pourrait dire aussi, hein, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai en Europe également, notamment quand on regarde les prix à la pompe, qu'il y a un facteur, hein, qui est venu aussi s'ajouter à cet environnement un petit peu compliqué. Bien sûr, c'est le pétrole, et on voit que de ce côté-là, il n'y a pas tellement d'espoir à attendre, et qu'il y a des risques, peut-être pour 2012.
Alors, une des grandes caractéristiques de ce qui se passe avec le marché pétrolier, c'est, et à mon avis, ce n'est pas suffisamment souligné, c'est la très bonne adéquation qui existe entre l'offre et la demande de pétrole. La demande de pétrole est parfaitement constituée, elle est directement en fonction de la démographie et de l'expansion économique mondiale, parce qu'on a tout de même de la croissance économique. Et tous ces pays émergents qui deviennent maintenant de véritables nouvelles économies puissantes sont des consommateurs naturels d'énergie. Et là où est la très grande différence aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'est que la réponse de l'offre est beaucoup plus ajustée. Et donc, par conséquent, ceci tient les prix. On n'a pas du tout des chocs qui font que soit on est à court de pétrole, soit on en a beaucoup trop. Et par conséquent, les prix ont tendance à se tenir de manière très stable, voire de légèrement progresser. Alors, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'évidemment, on ne s'emballe pas pour aller jusqu'à un 150 $ par baril, parce qu'à ce moment-là, ça tuera effectivement toute velléité de croissance. Tout le monde restera très attentiste et donc, par conséquent, les quelques signes positifs que l'on observe seront annihilés instantanément.
Alors, du côté des entreprises, hein, si on prend par exemple le cas de la France, on voit globalement plutôt d'une bonne année 2011, hein, sauf quelques exceptions. Mais on voit très bien, vous suivez comme nous effectivement le discours des chefs d'entreprise, on voit quand même plus de prudence, hein, sur 2012, peut-être moins d'affirmations sur les résultats ou sur des marges. Donc il y a quand même ces inquiétudes de savoir ce qui va se passer dans les prochains mois.
C'est tout à fait ça. Alors déjà, en ce qui concerne l'année 2011, la grande leçon de l'année 2011, ce n'est pas une surprise, mais c'est une leçon, c'est que l'on est capable de tenir les marges quand bien même l'activité peut fluctuer, voire se réduire. Donc ça, c'est une grande force que présentent les entreprises. Et ça explique aussi pourquoi on peut avoir de la confiance dans les entreprises à moyen terme. La deuxième chose, c'est concernant l'année 2012. On est exactement dans le cas d'être devant une nappe de brouillard qui est d'une densité phénoménale, c'est-à-dire que la visibilité n'existe pas, et a-t-on la possibilité d'avoir une visibilité? Et il ne faut pas croire que lorsque l'on est sur la route et que l'on a une nappe de brouillard qui est très dense, cette nappe est d'une longueur qui est infinie. Eh bien, la longueur de la nappe de brouillard, c'est le temps. Et donc, nous, par exemple, en ce qui concerne nos stratégies d'investissement, comme nous ne pouvons pas avoir une certitude ou une approche suffisamment conséquente de la prévision en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats, nous nous attachons à regarder le profil technique et technologique, presque physique, des entreprises pour dans 3 ans ou dans 5 ans. Parce que de toute façon, la puissance des éléments sous-jacents, type démographie, type technologie, type économie ou croissance des pouvoirs d'achat, fait que nous pouvons retrouver de la visibilité lorsque nous regardons les entreprises une par une pour les faire parler sur leurs projets à 3 ans ou à 5 ans.
En conclusion, lorsqu'il y a des entreprises qui effectivement présentent une certaine décote, on en a rencontré ici même parmi les interviews, chefs d'entreprise qui disaient finalement la bourse ne reconnaît pas ce qu'on est en train de faire, c'est pas suffisant, c'est pas un élément
Non,
suffisant.
parce que le fait qu'une société soit décotée, il faut toujours se poser la question de savoir si la sous-valorisation est exceptionnelle, à ce moment-là, il faut en profiter, ou bien si elle a un caractère malheureusement normal compte tenu de la structure même de ses activités ou de ses produits. Donc, ce n'est pas un problème de sous-valorisation ou de survalorisation, c'est un problème de visibilité que l'on doit avoir sur l'entreprise et comment est-elle capable de se projeter pour nous dans l'avenir, sachant que l'on a un court terme qui est extraordinairement incertain.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Emmanuel Soupe. On rappelle que vous êtes donc responsable de la gestion Action France chez Neuflize Private Asset.
Merci.